Bonjour, nous recevons aujourd'hui le docteur Patricia Jabre, qui est médecin au SAMU de Paris, qui va nous parler de son étude récemment publiée dans le JAMA sur l'intubation précoce des arrêts cardiaques. Bonjour docteur Jabre, pouvez-vous, pour commencer, nous rappeler le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude ?
Bonjour. Effectivement, on a étudié la prise en charge initiale des voies aériennes dans l'arrêt cardiaque en préhospitalier. C'était en 2012, puisque c'est un PHRC national de 2013. Et donc, parce que dans la littérature, il y avait une controverse sur le sujet. Beaucoup d'études observationnelles, plutôt rétrospectives, certains de grands registres aussi ont montré une surmortalité des patients intubés dans l'arrêt cardiaque. Et donc, la littérature poussait de plus en plus à ventiler au masque ces patients-là. Il y a certains essais cliniques, très peu, il n'y en avait que 3 à cette époque, 2 chez l'adulte en arrêt cardiaque préhospitalier et 1 chez les enfants. Et pareil, qui, eux, ils ne montraient pas de différence significative, mais ils n'ont montré pas l'intérêt de l'intubation orotrachéale. Et donc, une revue Cochrane était sortie juste avant et qui montrait bien l'importance de faire un essai clinique de grande qualité méthodologique pour essayer de donner une réponse, des résultats à cette question. Et donc, on s'est lancé là-dessus et on a créé un projet. On a eu l'appel d'offres PHRC national et le coordonnateur de l'étude et celui qui a eu l'idée, c'est le professeur Frédéric Adnet du SAMU d'Avicenne.
Merci pour cette introduction. Ensuite, pourriez-vous nous décrire les critères d'inclusion et la population qui a été incluse dans cette étude, ainsi que les principaux résultats à partir de cette étude ?
Les patients inclus dans cette étude étaient les patients en arrêt cardiaque, à la prise en charge de l'équipe médicale SMUR, avec une tentative de réanimation. C'était des adultes, donc de 18 ans et plus, et il ne fallait pas qu'il y ait une régurgitation massive avant l'arrivée de l'équipe médicale. Il ne fallait pas que ce soit une femme enceinte et pas des prisonniers, tous les critères habituels d'exclusion, et qu'il n'y ait pas de directive de ne pas réanimer. Donc ces patients-là, on les a inclus. Il y a eu une inclusion qui a débuté en mars 2015 sur 22 mois. Et donc on a inclus 2043 patients. Ces patients-là, quand on a analysé, il y a, comme c'est un essai de non-infériorité, on a une analyse en intention de traiter et on a une deuxième analyse en pair protocole qui est, c'est l'habitude de faire ça dans ce type d'étude. Et donc les deux analyses ont montré un résultat qui est identique. La survie, elle était de la survie avec un statut neurologique favorable, donc un CPC 1, 2, elles étaient de 4,3% dans le groupe ventilation au masque et 4,2% dans le groupe intubation. Et c'était pareil dans les deux analyses, ITT et pair protocole. Et donc, on voyait bien que cliniquement, on n'a pas un chiffre qui est très différent dans les deux groupes. Par contre, comme c'est un essai de non-infériorité, on devait avoir un intervalle de confiance qui ne comprend pas le moins 1 pour pouvoir montrer cette non-infériorité, ce qui n'est pas le cas. L'intervalle de confiance, il englobe la marge de moins 1 qu'on s'était fixé. Et donc, on ne peut pas statistiquement dire qu'on a montré la non-infériorité de la ventilation au masque. Ça, c'est le résultat principal. Après, on a des résultats secondaires qui sont très importants, qui sont les autres critères de pronostic, donc la survie par exemple à l'admission à l'hôpital, la survie à 28 jours, le ROSC, la reprise de rythme cardiaque spontané. Et ces chiffres et ces résultats-là montrent aussi pas de différence dans les deux groupes. Par contre, il y avait beaucoup plus de façon significative de reprise de rythme cardiaque spontané dans le groupe intubation. Et pour ce qui est des complications, les complications, on les a analysées dans une analyse qu'on appelle l'analyse de sécurité. Et donc, c'est les vrais patients qui ont vraiment reçu ces techniques-là. Et dans ce groupe-là, on a montré beaucoup de complications de façon significative plus importante dans le groupe ventilation au masque par rapport à l'intubation. On a beaucoup plus de difficultés à ventiler au masque. On a beaucoup plus d'échecs de ventilation au masque que d'échecs d'intubation. Et on a beaucoup plus de régurgitation avec la ventilation au masque. Il faut faire attention à ce point-là parce qu'on ne s'attendait pas à autant de complications dans ce groupe. C'était déjà décrit dans la littérature, mais quand même, c'était assez important dans notre étude.
Merci pour cette synthèse des résultats. Ensuite, quelles sont les principales limites de cette étude que nous devons retenir à votre avis ?
Donc évidemment, dans notre étude, nous avons, comme toutes les autres études, pas mal de limitations. Les limites les plus importantes, je dirais, c'est le milieu européen préhospitalier qui est spécifique à l'Europe. Nous sommes des équipes médicales, donc nous avons des médecins. Et si on veut généraliser nos résultats sur... par exemple, le milieu anglo-saxon États-Unis, on n'est probablement pas tout à fait comparable. Donc, nous, c'est les médecins qui ont intubé et c'est des médecins qui ont l'habitude de ce geste-là. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que nous avons décidé une stratégie thérapeutique dans cette étude. C'est-à-dire, nous avons choisi un groupe contrôle qui est le groupe intubation, mais le groupe intervention, c'était... ventilation au masque et passage à l'intubation dès qu'il y a une difficulté de ventilation au masque ou bien passage à l'intubation dès qu'il y a une reprise du rythme d'un rythme cardiaque spontané. Donc, on n'a pas prévu de faire que ventilation au masque. Il fallait passer à l'intubation juste après dans ce groupe-là. Donc, nos résultats, ils donnent les résultats avec cette stratégie thérapeutique. Donc, il ne faut pas oublier... que ça doit être des gens qui savent intuber, puisque dès qu'ils ont une difficulté de ventilation au masque, il faut qu'ils puissent avoir l'alternative d'intuber. La troisième limite, je dirais, c'est celle du suivi hospitalier. C'est vrai qu'on nous a reproché, les reviewers auraient aimé avoir des informations sur le suivi hospitalier. C'est-à-dire, ces patients-là, est-ce qu'ils ont été pris en charge de façon comparable à l'hôpital ? La réponse, c'est qu'on n'a pas d'argument pour dire qu'ils ne l'auront pas été, puisque c'est un essai randomisé et il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas été, mais on ne l'a pas montré. On n'a pas fait de suivi hospitalier. De quatre, je dirais que le calcul d'effectifs. Il faut savoir que quand on calcule notre effectif, c'est le jour où on lance l'étude, c'est-à-dire en 2012, avec les données de la littérature qu'on avait ce jour-là. On a pris un grand registre japonais où les patients en arrêt cardiaque avaient été ventilés au masque et ils avaient une survie avec un statut neurologique favorable de 3%. On s'est basé sur ce chiffre-là. Après, on a pris une grande étude, un essai randomisé publié dans le New England du professeur Pierre-Yves Gognaud qui parlait de l'arrêt cardiaque et donc on a pris la survie de ces patients avec un statut neurologique favorable intubé, et donc il était de 2%. C'est vrai qu'on s'est lancé avec cette hypothèse-là, et donc ça nous fallait 2000 patients. Mais on nous a reproché aussi que pourquoi on n'avait pas mis comme hypothèse le 2% pour l'intubation et un chiffre identique de 2% pour la ventilation au masque, et donc comme ça, on se lance par une hypothèse de non-infériorité égale à zéro. C'est sûr que ça aurait été possible, mais on ne l'a pas fait à ce moment-là en croyant prendre ce qui est le meilleur dans la littérature. Et si on l'aurait fait, ça nous aurait fallu beaucoup plus de patients. On aurait été dans les 9000 patients. Donc effectivement, peut-être on manque de puissance, mais avec les données à ce moment-là, on croyait bien faire. Et c'est le problème de plein d'études de ce genre.
Merci. Et en conclusion, du point de vue du clinicien, quel est le message qu'il faut retenir de votre travail ?
Alors, ce travail a bien montré que l'intubation orotrachéale n'augmentait pas la mortalité. Donc déjà, par rapport à la littérature, on répond que dans un milieu européen avec des médecins qui sont à l'aise avec l'intubation, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité. Après, on montre bien aussi qu'il y a beaucoup de complications avec la ventilation au masque. Il ne faut pas banaliser ce geste. Il ne faut pas croire que c'est facile et donc c'est anodin pour le patient. Attention, il y a beaucoup de complications, il y a des difficultés à ventiler et donc il faut pouvoir chercher une alternative, avoir une alternative à ce geste quand ça se pose. Le dernier point, je dirais, c'est sûr, si on a des gestes importants à faire comme la défibrillation, le massage, il faut probablement penser à retarder le geste de l'intubation par le médecin, assurer ces gestes-là, continuer par la ventilation au masque, le temps d'avoir à disposition tout le matériel pour intuber et dans de bonnes conditions. Donc je pense que c'est ça le message initial de la prise en charge de l'intubation de la ventilation. Des voies aériennes en arrêt cardiaque, c'est faire les gestes importants, ventiler au masque, quitte à passer à l'intubation dès qu'on peut.